de cette opération spéciale Allo Impôts aujourd'hui sur la première et sur tous les médias de la RTBF pour nous faire réfléchir sur notre aversion à payer des impôts.
Oui, car je vous le demande, chers auditeurs, qui parmi vous se réjouit à l'idée de reverser une partie substantielle de ses revenus à l'État ? Probablement personne. Moi-même, je dois le dire, je ne suis pas particulièrement enjoué à l'idée de me dire que les quelques euros que cette chronique me rapporte se verront taxés au poids de ne me laisser à peine de quoi m'acheter un mocktail. Et on comprend cette difficulté. Pour beaucoup de gens, gagner sa vie demande de travailler dur. Et voilà que l'État nous contraint de donner une grosse partie de ce gain. Alors on se met forcément à critiquer le système, on parle de vol, on crie à l'atteinte à la propriété, à la liberté. Bref, on adore détester les impôts.
Et pourtant, vous venez nous proposer justement un autre regard sur l'impôt, Mathieu.
Oui, parce que je pense que cette idée du citoyen qui serait volé par la collectivité nous fait oublier quelque chose d'important, notre dette sociale. Alors la dette sociale, c'est un concept qu'on doit au philosophe Léon Bourgeois, dans son livre « Solidarité » en 1896. Selon lui, en fait, chacun naît débiteur d'un capital immense. En venant au monde, nous recevons en fait un immense trésor. Un trésor qui est fourni par la société. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce trésor ? Mais il y a la langue, les techniques, des siècles de progrès technologiques, des infrastructures, des institutions, du savoir accumulé. En fait, tant de choses qu'on doit à la collectivité qu'aucune vie entière ne suffirait à rembourser. Nous entrons dans l'existence comme on entre dans une maison déjà bâtie, échauffée. Alors l'impôt, dans cette perspective, c'est pas du vol, mais c'est un acompte, un espèce de contrat que personne n'a signé, mais dont chacun touche les intérêts bien avant d'en avoir versé le premier centime. Même cette idée de propriété privée, c'est-à-dire ce qui nous semble nous appartenir vraiment en propre, eh bien, c'est quelque chose qui nécessite aussi un système collectif qui nous permet en fait de reconnaître cette propriété. C'est toute l'idée de Rousseau et du contrat social. La propriété n'est pas en fait un fait de la nature qu'on découvrirait. C'est une convention qu'on accepte et elle n'existe que parce qu'il y a une communauté tout entière qui la reconnaît, qui la garantit, qui la défend. Mon compte en banque, il n'a de sens que parce que des millions d'inconnus tiennent pour vrai qu'il est à moi. Si vous retirez la communauté, il ne reste plus qu'un chiffre sans aucune réalité.
Ce que vous nous dites, Mathieu, c'est que finalement, personne ne peut dire qu'il s'est fait tout seul.
Bien oui, cette idée du self-made man, l'idée que nous sommes les seuls auteurs de nos revenus, c'est une fausse idée. Nous sommes intrinsèquement liés aux autres, à leur travail, mais aussi à toute une organisation de la société dont nous profitons chaque jour. Il y a même quelque chose de troublant dans notre rapport à l'impôt. Nous ne voyons systématiquement que la ponction, mais jamais le don. Ce don du feu rouge qui fonctionne, de l'eau potable au robinet, de l'école pour nos enfants, des soins de santé, de ce pont qui ne s'effondre pas, des poubelles qui sont ramassées chaque semaine. Bref, tout cela nous porte en silence. Et bizarrement, nous ne le remarquons qu'à l'instant où cela nous manque. L'impôt, en fait, finance l'infrastructure de l'invisible. Il paye ce sur quoi on ne s'attarde jamais, précisément parce que ça marche. Et donc, il y a une forme d'ingratitude structurelle du bénéficiaire. On maudit la facture, mais on oublie le festin.
Très belle phrase. On maudit la facture, mais on oublie le festin.
Il y a une plume ici.
Est-ce que vous nous dites, Mathieu, concrètement, qu'en fait, on devrait aimer payer nos impôts ?
Alors, je ne dis pas qu'il faut aimer payer, bien sûr, mais Simone Veil le notait avec sa rigueur froide qu'on lui connaît. Pour elle, dans une société, c'est en fait l'obligation qui est première. Le droit, ça n'en est que le reflet. Un droit n'existe pour moi que parce que d'autres se reconnaissent obligés à mon égard. Réclamer ses droits en niant ses obligations, c'est en fait vouloir les faire sans la cause. Je dis en fait qu'il faudrait, avant de critiquer, mesurer l'étrange opération mentale par laquelle nous nous croyons créanciers, alors que nous sommes aussi, je le disais, débiteurs. Nous arrivons au monde les mains vides et tout nous est donné. La langue, le savoir, la sécurité, les soins. L'impôt n'est pas le moment où l'on nous prend quelque chose. C'est le moment, certes, pas très agréable, où nous reconnaissons enfin que nous avons reçu quelque chose. Alors bien sûr, on peut discuter de la manière dont sont affectés nos impôts, mais attention au glissement. Une chose est de débattre du juste niveau et du bon usage, c'est le cœur de la vie démocratique. autre chose est de contester le principe même, comme si l'impôt était par essence une spoliation. Alors, et si on arrêtait de critiquer les impôts, hein, peut-être découvririons-nous, derrière cette plainte habituelle du contribuable, une vérité que nous fouillons, à savoir que l'idée que nous ne devons rien à personne est le plus confortable et le plus faux de tous nos mensonges.
Oh là là, Mathieu, très très belle chronique.
Engagée.
Ben ouais, engagée pour les impôts. Vous nous surprenez de semaine en semaine, Mathieu Pelletier. Non, mais en tout cas, c'est à la fois très vrai. Je pense que votre chronique va circuler au SPF Finance.
Je vais devenir la star de contrôleur d'impôts.
Effectivement, ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite. En tout cas, non, mais ça fait vraiment du bien de se rappeler tout ça. Il y a quelqu'un qui vous écoutait en régie très très attentivement. C'est Florence Angélici, la porte-parole du SPF Finance. Elle va nous rejoindre dans quelques